Dans le fond de la pièce, très grande, entre le mur et la cheminée, on apercevait le lit drapé de rideaux blancs, qu'un anneau de noyer verni ramassait en gros plis au plafond. Ça semble gentil, remarqua Charlotte d'une voix qui demandait à être rassurée. Au moins nous aurons de l'air, il y a de la place. Ils commencèrent l'inspection minutieuse de la chambre, du plafond formé de solives apparentes au plancher de bois blanc mal raboté. Sur la cheminée, des daguerréotypes passés, indéchiffrables, un breton et une bretonne en coquillage, un vaisseau avec tous ses agrès, sous un globe des coraux, des madrépores. Au mur, des lithographies barbares barbouillées de couleurs crues. Il faut se coucher pour se lever demain de bonne heure, observa Henri, et il alla examiner si la porte fermait bien. Bigre, s'exclama-t-il, un loquet, ni serrure, ni verrou. Hein, tu as peur ? Fit la jeune femme craintive de la crainte lue dans les yeux de son mari. Oh, pas du tout, cela même prouve leur confiance. Il n'en pensait pas un mot, subissant malgré lui l'influence de la nuit, de l'isolement, de la région inconnue, rongé d'une terreur vague, irrésistible, car il ajouta. Si je traînais la commode devant la porte ? Ah, ce pauvre homme, ne fais pas cela. Elle était si gentille en disant ces mots qu'il eut honte de ce moment de faiblesse, oublia tout pour courir à elle et l'appuyant tendrement contre sa poitrine. « Ma chère, chère petite chérie aimée. »« Bah, advienne que pourra, il s'abandonnait au hasard des choses, à la douceur de l'instant. » Quelques minutes plus tard, ils étaient couchés, la chandelle soufflait, et engourdis mollement dans la tiède moiteur des matelas de plumes où ils enfonçaient, écoutaient vaguement les bruits rares de la maison. « On est bien couché, pas, chérie ?»« Oui, oui, ma mignonne, vraiment pas mal. » Le silence devint complet, absolu, un de ces silences de plomb qui pèsent sur les êtres et sur les objets. Dans l'enveloppant mutisme de la campagne, seul le roulement sourd et mélancolique de la mer berçait la nuit. Dans la chambre, ténèbres opaques, aveugles, les volets pleins de la fenêtre fermant hermétiquement. Ils allaient s'endormir, envahis peu à peu par la torpeur lourde de tout ce qui les entourait. Au dehors, au bas de l'escalier, une marche craqua. Henri fit un mouvement. « Tu as entendu ?» interrogea Charlotte. Il ne répondit pas, retenant son souffle. Les craquements recommencèrent, espacés comme contenus. On eût dit des pas qu'on essayait de rendre moins pesants. Le jeune homme ne pouvait nier. Il dit « Bon, ces vieilles maisons, ça a des tas de bruit. Peut-être le patron qui va se coucher. » « Ah ? Je t'assure, il me l'a dit. » Une bête de réponse, celle-là, et inopportune, et maladroite. Il mentait impudemment, et la jeune femme, dans son désir de tranquillité, dans son amollissement de demi-sommeil, ne releva même point ce mensonge si visible, puisqu'elle savait que son mari n'avait pu causer avec Keradenec. Le silence revenait, puis une sorte de plainte courue, très étouffée, amortie par des épaisseurs molles, cloisons ou étoffes, on ne savait trop. « Serait-ce ton ami ? Il est malade, hein ?»« Jacques, malade ! Oh, tu ne le connais pas. Il est solide comme une falaise bretonne, un roc. »«
Mais cette plainte ?»«
Rien du tout. Le vent dans les couloirs, un oiseau de mer, des machines de la campagne. »«
Bien sûr. »
Comme la petite femme frissonnante se serrait contre son mari, c'était vraiment effrayant cet abandon, ce pays ignoré, perdu à l'extrémité de la Bretagne, au milieu de gens qui ne parlaient pas français et qui avaient l'air si farouche, si dur. Dame, on les avait assez regardés de travers à leur arrivée. Malgré son courage, malgré son mari, elle commençait à avoir très peur, regrettant cette fantaisie, ce voyage à l'aventure. Henri songeait. Tout de même, si on voulait nous voler, nous tuer, se débarrasser de nous, qui est-ce qui le saurait ? Ce n'était pas drôle, ces pensées sinistres qui l'assaillaient sans qu'il pût leur échapper, s'en débarrasser. Plus il se forçait de penser à autre chose, plus elle revenait, sombre, harcelante, dissolvant son énergie, effondrant ses raisonnements. D'autres marches craquèrent, les unes après les autres, on montait, il n'y avait plus à en douter. Après, ce furent les planches du palier, et là un nouveau temps d'arrêt, lugubre celui-là, l'escalier ne conduisant pas ailleurs. On se concertait avant d'entrer, on débattait une dernière fois leur sort. Henri entendait battre son cœur à gros floc-floc contre les parois de sa poitrine. Ses tempes sifflaient, gorgées de sang, et sur son épaule courait le souffle plus oppressé, plus dur de la pauvre Charlotte, dont il devinait l'effroi intense, dont la gorge sautait, sautait follement. Sa canne de voyage est dans le coin tout près du lit. C'est une précaution suprême qu'il a prise avant de se coucher. Il n'a que le bras à étendre pour la saisir. Cela le rassure un peu. Au moins, on ne le surprendra pas. Elle est très lourde, cette canne. sérieusement plombé, une vraie massue. Oh, il vendra chèrement sa vie, leur vie.
Malgré son angoisse, il ressent quelque orgueil à cette pensée de défendre sa femme, de faire preuve de virilité, de courage sous ses yeux.
Crac, crac. Le loquet se soulève, la porte remue, s'ébranle, s'entr'ouvre, une lueur paraît. C'est le moment. Il va se lever, bondir, armé de son gourdin, assommer le bandit sans lui laisser le temps de se reconnaître. Son affaire est toute combinée. Une main crispée le retient imbéguément.
« Ne bouge pas, ne bouge pas, j'ai peur, peur !»
Cela le paralyse. Il reste immobile sur le dos, retenant sa respiration.
Bah, il sera toujours temps, l'autre les croit endormis. Il est au moins 11 heures, on a attendu pour les attaquer durant leur premier sommeil, le plus accablant. Un malin se guérit des necks.
Par l'entrebâillement, un filet lumineux glisse. La porte s'ouvre davantage, doucement, doucement, sans faire crier ses gonds.
« Il est d'avance, se dit Henri. Il a pris toutes ses précautions, le sauvage. »
Une sinistre figure s'avance, rougie en dessous par les reflets de la lumière. «
Brrr ! Le vilain oiseau de nuit, le lévisage avec sa large bouche entr'ouverte, ses yeux féroces tapis dans la broussaille des sourcils, ses longues mèches grises éparses sur les épaules. »
La main gauche porte une lanterne, l'autre tient des sabots.
C'est Keradenec. Il entre à petits pas, pieds nus sans se hâter, évitant les planches qui craquent trop, poussant à petits coups le battant qui cède. Bientôt, tout le corps a passé. Il est là, entier, monstrueux, riant à demi d'un atroce sourire.
Charlotte a fermé les yeux, la tête enfoncée dans l'oreiller, préférant ne rien voir.
Henri, très prudent, observe entre ses paupières mi-closes, feignant le sommeil.
Au bout du poing énorme, la lanterne se balance, dirigée vers lui, probablement pour s'assurer qu'il dort, et il voit l'aubergiste se retourner une seconde, jetant derrière la porte deux mots brefs qu'il ne comprend pas à quelqu'un qu'on n'aperçoit pas encore.
Ah ah, il n'est pas seul, ce sera dur, pourvu que ce pauvre Jacques...
Il se souvient en frissonnant de la plainte montée jusqu'à eux.
Jacques, ah, il le vengera.
L'homme a fini d'entrer, derrière lui, une femme, une lanterne à la main gauche. Ses sabots de l'autre, une vieille, sa femme, sa complice sans doute.
Ils marchent, grotesques et effrayants, l'horrible couple.
Henri se rappelle avoir lu des histoires semblables où figuraient des auberges à guet-apens, des repères sanglants, toute sa chair à froid, de la nuque au talon. Est-ce bien le moment? Doit-il sauter du lit, se ruer sur les misérables?
Mais voilà qu'il longe le mur dans lequel s'ouvre la porte, regardant devant eux, n'ayant pas un coup d'œil pour le lit drapé de blanc et fixant obstinément un point de la muraille à laquelle est accotée la couchette.
Ah, les vêtements parbleu, c'est bien cela, ils viennent fouiller les poches.
Peut-être n'en veulent-ils qu'aux bijoux, aux porte-monnaie.
Ils vont, derrière la vieille, un autre homme, un jeune celui-là, une face de lune ronde et joviale, une peau flambée de soleil et d'alcool.
Encore, fait Farnèse effaré,
même tenue, même lanterne, même sabot.
Un autre, puis un autre, d'autres toujours, des femmes, des garçons, des jeunes filles, des enfants, par rang de taille, un troupeau d'êtres bizarres, fantastiques, balançant des lanternes et des sabots, se suivant à la file.
Graves, levant les pieds, retenant leur souffle, sans détourner la tête, ils passent.
Une clé grince dans une serrure, là tout près du pied du lit, et la bande s'engouffre.
Henri a ouvert ses yeux tout grands et il comprend enfin, le rire le gagne détendant ses nerfs.
« Ma chérie, Charlotte, regarde, je t'en prie.
Oh, des bonnes têtes, et nous qui, oh, oh, oh. »
Elle se décide, la mignonne, et reste ébahie devant l'amusant spectacle, un théâtre de séraphins grand comme nature, un désopilant défilé où chaque personnage, véritable ombre chinoise, découpé à l'emporte-pièce par les lanternes, plaque sur le mur blanc sa silhouette géante, son comique et vivant profil, avant de disparaître derrière les rideaux blancs. C'est tout bonnement la maisonnée Keradenec qui va se coucher, sa journée finie. La grande pièce où ils doivent reposer n'ayant pas d'autre issue que la chambre des patrons, et cette chambre, la seule convenable, ayant été donnée aux voyageurs. Ils ont été forcés de la traverser pour aller chercher cette porte fermée à clé, dont Henri et Charlotte ne s'étaient nullement préoccupés, la prenant pour une porte de placard. Tout s'expliquait. Il en passe, 10, 12, on ne le sait.
Tout le pays peut-être, remarque Henri. Le dernier disparu, la porte close, le silence renaît, mais un double rire éclate et se prolonge sous les rideaux.
Avons-nous été bêtes, mignonnes, pauvres gens, les avoir pris pour des bandits, des assassins, quand on pense que nous avons failli mettre la commode devant la porte? Ah bien, ça aurait été gentil. Quel vacarme alors.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame.
On va donc dormir, se reposer enfin sérieusement, sans souci. Ils allongent entre les draps de grosse toile leurs membres là, et déjà, l'engourmissement délicieux qui précède le sommeil les saisit, les enveloppe de sa caresse exquise, cette caresse dans laquelle le corps, l'esprit fondent comme en du néant. Ils ne se réveillèrent qu'au petit jour, tout à fait remis de leur grosse frayeur, tranquillisés sur la sécurité de ce guilvinec où l'on dormait sans serrure ni verrou aux portes. Leur premier soin fut d'aller retrouver leurs compagnons de voyage. Qu'étaient-ils devenus? Avaient-ils eu une nuit aussi agitée que la leur? Ils le cherchèrent en vain dans les différentes pièces du bas, personne.
« Bah !» s'écria Farnès, « il aurait été faire ses adieux au pays, imitons-le. »
Sur la grève blanche, une solitude complète, rien que des bandes de mouettes posées en groupe ou se laissant bercer par la vague, pas d'autre bruit que le ronflement régulier de l'océan. Dans le pays, tout dort encore. Brusquement, au-delà d'un rocher, une forme s'agita, deux bras se dressèrent, enfilant les manches d'une chemise.
« Jacques ?» appela Farnès.
« Hein ?» fit une voix dolente.
La tête de Delort émergea du col entrebâillé de la chemise.
« Bonne idée. Tu as pris un bain, toi ?»«
Fichtre, tu es matinal. »«
Oh, mes amis, quelle nuit !»«
Comment, toi aussi ? » ?»«
Raconte-nous cela bien vite. »«
2 minutes, je suis à vous. »
Achevant rapidement sa toilette, il sortit de derrière son rocher et vint serrer la main de son camarade.
« Qu'y a-t-il, bon Dieu ? Tu as une mine de déterré ?» interrogea celui-ci.
De dévorer plutôt, littéralement dévorer, manger vivant. Je ne suis qu'une ampoule, qu'une plaie de la tête aux pieds, et la mer tout entière n'aurait pas assez de sel pour cauteriser mes blessures.
Ce fut un échange de confidences tragicomiques. Après avoir écouté avec attention l'histoire de la procession nocturne et avoir souri mélancoliquement, il avait entamé son récit. Une fois ses amis conduits au premier étage, ils s'étaient vus menés par Kéradenec vers une sorte d'armoire très pittoresque, ma foi. Confinante à la salle à manger, un trou sans air, sans lumière, dans lequel gisait une paillasse suspecte, couverte de toile à voile. Il s'était introduit là-dedans avec une méfiance vague, bien naturelle, un recul instinctif de toute sa chair, de tout son être secrètement révolté. Ah, s'il avait su. Il n'y avait pas une demi-heure qu'il se trouvait là, dans l'obscurité, au fond de son armoire, qu'il s'était soulevé, inquiet, agité, murmurant « Qu'est-ce que je sens ?» Il se tourna, se retourna, tapant son oreiller, lançant une jambe de ci, une jambe de là, avec une sensation de fourmillement aux pieds. « Sans doute la fatigue, le sang, se dit-il. » Léger, léger, des chatouillements courts çà et là, rapides, zigzagants, puis des coups d'aiguillon, des démangeaisons, rares d'abord, nombreuses ensuite, plus nombreuses, cela devient intolérable. Il saute à bas du lit, frotte une allumette. La chandelle jette sa lueur fumeuse. Dans l'escalier commence la montée de Kéradenec et des siens, regagnant leur chambre. Au dehors, rien, pas un bruit. Il écarte avec précaution le drap et reste stupéfait, anéanti. C'est une invasion, un nuage vivant. Les draps sont mouchetés de centaines de points remuants, sautillants, qui s'élèvent et s'abaissent sans s'arrêter. La légion tout entière des puces bretonnes prend ses ébats dans le lit antique. « Diable, diable, elles sont vraiment trop !» gémit le malheureux garçon. Et il pousse un vrai cri de désespoir. La plainte qui nous a tant épouvantés, observa Henri Farnès à cet endroit du récit de son ami. Il y avait de quoi, va. Moi qui tombais de sommeil. Il continue. D'abord, il essaya de lutter, de repousser les assiégeants, en voyant promener au loin à travers la pièce oreillers, couvertures, traversins, tout ce qui pouvait abriter les buveurs de sang, leur servir de tanière, d'embuscade, de redoute. Une fois le terrain net, il rentra courageusement entre ses draps, avec la ferme volonté de résister par l'inertie, de dormir quand même.
Baste ! La lumière éteinte, la sarabande recommence, plus enragée. Il se roule, tape des pieds, des poings, jure, tempête, les piqûres pleuvent sans arrêter. 3 fois il balaye les draps, refait le lit. 3 fois ses implacables ennemis l'enchassent. C'est à devenir fou. Alors, il avait battu en retraite, honteusement, résigné à terminer sa nuit sur une chaise, en comptant mélancoliquement les heures. À la première lueur de l'aube, il avait couru droit à la plage, n'ayant qu'une hâte, calmer dans l'eau la cuisson des coups d'aiguille dont il était lardé. Ses mains, sa figure même, emportaient la trace.
« Oh, ce guilvinec, je m'en souviendrai longtemps, » assura-t-il en terminant.
« Y restons-nous ? » demanda malicieusement Charlotte.
À 6 heures, l'arrivée du char à banc du boucher de Pont-l'Abbé fut accueillie par eux comme la voile lointaine par les naufragés oubliés sur une roche aride au milieu de la mer.
« Ah, les pays inconnus, les petits coins ignorés !» Ils en furent dégoûtés pour quelque temps.